Le premier ministre François Legault a reçu des menaces de mort, des commentaires sur les réseaux sociaux. Le chef intérimaire du Parti québécois, Pascal Bérubé, aussi, et par le biais sa conjointe. On leur a parlé, évidemment, cette semaine. Et puis hier, encore une fois, sur les réseaux sociaux, un autre message de menace à l'endroit de François Legault et de Pascal Bérubé. Je fais le point avec Guy Lapointe, qui est l'inspecteur-chef à la Sûreté du Québec. Monsieur Lapointe, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
D'abord, le portrait global, c'est quoi depuis le début de cette pandémie, là, le nombre de signalements que vous avez pour des propos haineux et des propos qui sont aussi des menaces?
Effectivement, il faut comprendre que le nombre de signalements a augmenté drastiquement. On parle par rapport à la même période l'année dernière d'une augmentation de plus de 100%. Là, on est à 1748 en 2020, alors que pour la même période en 2019, on était à 713. Et ça, c'est tout ce qui est sur les médias sociaux et qui est signalé, que ce soit des citoyens qui nous signalent des propos, qui soient détectés par nos enquêteurs au niveau de la cyber, que ce soit d'autres corps de police, par exemple, qui nous les rapportent. Donc, vous pouvez voir qu'il y a une augmentation très significative là, du nombre de signalements.
OK. Quand vous avez un signalement, quelle est la suite des choses?
Bien, tous les signalements sont évidemment analysés. La première chose, on va analyser la teneur des propos. Parfois, les propos qui vont nous être apportés, même s'ils sont de mauvais goût, ne seront pas des propos qu'on pourrait qualifier de menaçants ou à caractère haineux. Par la suite, le dossier va être assigné aux enquêteurs. Et là, évidemment, il y a deux catégories. Là, il y a des catégories où il y a des comptes que je qualifierais d'ouverts. Donc, des gens qui ont des comptes à leur nom, sur lesquels, des fois, on va voir des photos de leur maison, de leur chien, là, des gens qui se cachent pas du tout. Puis, il y a d'autres catégories où ça va être des comptes qui sont plus secrets ou derrière des pseudonymes. Donc, s'il y a des démarches d'enquête à faire pour identifier la personne, c'est nos enquêteurs de la cyber qui vont commencer par faire ce bout-là. Et par la suite, c'est les enquêteurs qui vont se rendre sur les lieux, qui vont rencontrer des gens qui ont dit ces propos-là ou qui ont tenu ces propos-là pour la suite des choses. Et là, je vous dirais qu'encore là, il y a de plusieurs types de façons d'intervenir. Si on a affaire à quelqu'un, par exemple, qui n'a pas d'antécédent, qui semble mener une vie rangée, qui ne semble pas être quelqu'un qui pourrait passer à l'acte ou donner suite à ses propos, bien évidemment, vous comprendrez que l'intervention va se dérouler quand même différemment de si on a affaire à quelqu'un qui pourrait potentiellement être une menace.
OK. Quand vous identifiez la personne puis que les enquêteurs vont cogner à sa porte, quelle est la réaction la plus fréquente que vous avez d'une personne comme ça qui vient se faire visiter pour avoir écrit des propos sur Facebook?
Dans la très grande majorité des cas, les gens sont surpris, comprennent pas, nous expliquent que c'était une blague, des paroles ont dépassé leurs pensées, ils n'étaient pas mal intentionnés, ils ne feraient jamais mal à personne. Donc là, c'est là que les gens, le ciel leur tombe sur la tête littéralement. Et là, ils réalisent dans quel pétrin ils viennent de se mettre. Et malheureusement, mais là, une fois qu'on est rendu là, il est trop tard. Là, la machine est partie. Et là, les gens, ultimement, peuvent se retrouver avec des casiers judiciaires.
OK. Avez-vous des récidivistes?
Il y en a certains cas, oui, des individus qu'on connaît, qui sont souvent des activistes, par exemple. Mais je vous dirais que c'est pas la majorité des dossiers contre eux.
OK. Et après ça, une fois que l'enquête, là, je comprends que vous évaluez le cas, fait, des enquêteurs regardent ça, mais est-ce qu'il y a des gens qui sont traduits devant les tribunaux?
Oui, tout à fait. Ultimement, vous savez, c'est la prérogative du directeur des poursuites criminelles et pénales de déterminer s'il y a lieu ou non de porter des accusations. Dans certains cas, on va soumettre le dossier. Dans d'autres cas, où il est clair pour nous que les propos ne constituent pas des menaces, il est possible qu'on ait quand même rencontré des gens pour les sensibiliser, mais qu'il n'y ait pas de dossier de soumis par la suite. Donc, chaque cas est vraiment un cas d'espèce, mais ultimement, c'est vraiment la prérogative là, du DPCP de porter ou non des accusations.
OK. Vous avez parlé tantôt de façon globale là, de l'augmentation de 100% du nombre de ces signalements. Si on fait une catégorie, les élus de l'Assemblée nationale, ça ressemble à quoi en termes de menaces?
Bien ça, c'est une augmentation qui est encore plus significative parce que là, encore une fois, si je me réfère au chiffre de 2019, où on avait 53 signalements qui visaient des élus de l'Assemblée nationale de tous partis confondus, c'est important de le mentionner, bien pour la même période en 2020, on est à 300. Donc, on parle d'une augmentation d'à peu près 600%.
Bien, c'est incroyable. Puisque je vous ai en ligne, prenons le temps ce matin de clarifier ce qu'un policier peut faire pour une intervention dans une résidence privée. Mettons qu'il y a un appel qui rentre, quelqu'un qui dit « ils sont 25 dans la maison, ça n'a pas de bon sens ». Quand la police arrive, quels sont les pouvoirs que vous avez entre les mains?
Bien, c'est toujours délicat parce que contrairement à un lieu public où les policiers peuvent entrer, peuvent aller constater des choses, lorsqu'on parle d'un domicile, le domicile est protégé par la Charte des droits et libertés. Donc, un policier ne peut pas entrer de façon unilatérale dans un domicile, sauf dans certains critères bien précis, là, où il y a urgence et risque pour la vie, là. Évidemment, mais un cas comme celui-là, on peut pas utiliser ce genre de critères-là pour entrer à l'intérieur. Donc, si les gens refusent l'accès, bien, c'est pas compliqué, là. Les seules façons qui restent, c'est obtenir une autorisation judiciaire pour permettre d'entrer à l'intérieur. Et là, il faut qu'un juge soit convaincu qu'il existe des motifs. Et sinon, bien là, les policiers vont devoir attendre que les gens sortent, par exemple, pour voir qui est à l'intérieur. Mais on ne peut pas entrer de force à l'intérieur des domiciles.
Parfait. Merci, M. Lapointe. Bonne journée.
Ça fait plaisir. Au revoir.
Guy Lapointe, inspecteur-chef à la Sûreté du Québec.